à toutes et à tous et bienvenue dans Okapi Service entre école, devoirs et long trajet ou embouteillage. Comment préserver l'équilibre des élèves en RDC? Nous en parlons avec Jean-Claude Disachi, les psychologues scolaires. Monsieur Disachi va nous rejoindre tout à l'heure. Si vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs, composez le 085 42 11 547 085 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Sylvain Baogueré assure la mise en onde de cette émission. Meshack Mboutamoutou et Esther Mamboté assurent le live sur nos réseaux sociaux. La réalisation est signée Benjamin Moudoumbi sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. À l'animation, Jocelyne Moussaou. En République démocratique du Congo, de nombreux élèves affrontent chaque jour des conditions de déplacement difficiles pour aller à l'école. À Kinshasa, certains passent plusieurs heures dans les embouteillages, matin et soir. Dans plusieurs provinces, d'autres parcourent des longues distances à pied, parfois dans des conditions pénibles, avant même de commencer les cours. Une fois rentrés à la maison, il faut encore faire les devoirs, réviser les leçons, préparer les affaires du lendemain, souvent dans la fatigue. Alors, comment préserver l'équilibre physique et mental des élèves dans ces conditions? Comment aider les enfants à bien apprendre malgré la fatigue des trajets? Faut-il adapter les devoirs, les horaires ou les habitudes familiales? C'est notre thème dans cette édition de Capi Service. Pour en parler, je l'ai dit, nous recevons Monsieur Jean-Claude Disachi, les psychologues scolaires. Monsieur Disachi, bonjour, bienvenue dans ce studio. Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Madame Jocelyne et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors, on va y aller, Monsieur Disachi, d'entrée de jeu. Dites-nous, quel effet les longs trajets quotidiens peuvent-ils avoir sur les élèves?
Les longs trajets quotidiens peuvent avoir un impact sur la santé physique des élèves. Donc la première, le premier impact dont on peut parler, c'est la fatigue.
Oui.
La fatigue. Donc la fatigue peut se manifester sur le plan physique, mais lorsque la fatigue s'installe dans la durée, elle peut également devenir une fatigue psychique. Donc c'est le premier élément que nous pouvons signifier qui peut arriver aux enfants lorsqu'ils sont soumis à des longs trajets entre l'école et la maison.
Et a aussi peut-être le manque de sommeil ou baisse de concentration. Est-ce qu'on peut observer cela?
Cela s'observe effectivement, mais la fatigue entraîne justement un certain lot de problèmes. Entre autres, vous avez cité là, vous venez de parler
de la baisse de concentration.
Et ça arrive souvent. Il arrive aussi qu'il y ait beaucoup d'inattention aussi et beaucoup de démotivation aussi. Donc tout ça, ça va avec cette fatigue et la fatigue peut générer d'autres types de problèmes quand ça arrive auprès des enfants.
Et dans certaines zones rurales, des enfants marchent plusieurs kilomètres chaque jour, on l'a dit, pour rejoindre leur école. À Kinshasa, d'autres passent des heures dans les transports, 2 heures, 3 heures. Il y en a qui quittent la maison à 3 heures du matin, à 4 heures, qui s'élèvent à 3 heures ou à 4 heures. Et ces situations ont-elles les mêmes conséquences sur l'apprentissage? Qu'est-ce qu'on observe sur l'apprentissage des enfants?
Déjà que l'implantation de l'école est un problème sérieux, parce que quand il y a urbanisation, il faut penser au positionnement de l'école en termes d'implantation. Très souvent, dans les zones urbano-rurales, les écoles sont assez distantes des endroits où habitent les enfants. Ce qui fait que les enfants sont soumis à des longs trajets. Parfois, un enfant de l'école primaire peut quitter de chez lui pour l'école. Il traverse déjà une distance de 8 kilomètres pour arriver à l'école, voyez-vous.
Oui.
Donc quand un enfant arrive comme ça, sur le plan physique, il est déjà exténué. Dans la capitale, c'est vrai que ces distances-là peuvent être écourtées avec le transport. Mais très souvent, ce sont des embouteillages qui bloquent. Quand il y a un embouteillage monstre, vous voyez que les temps se consomment pendant les temps des embouteillages et cela affecte la santé physique des enfants. Beaucoup arrivent exténués à la maison. Donc, quand ils arrivent exténués, ils n'ont plus le temps de s'adonner aux tâches scolaires auxquelles ils devaient vaquer.
Mais il y a aussi les choix des parents, hein, les choix qu'effectuent les parents sur les écoles. Aujourd'hui, on peut avoir un enfant à Kinshasa, par exemple, qui habite Ntsélé et qui étudie dans la commune de Kinshasa, au lycée Kabambar, et on a qui quitte Cité Maman Mobutu pour rejoindre le collège Elikia.
Vous posez le problème de la qualité de l'enseignement. Les parents cherchent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants.
Tout à fait.
Et lorsqu'un parent estime que son enfant peut étudier dans une école assez distante de la maison, c'est qu'il prend aussi des dispositions pour que cet enfant-là arrive à temps à l'école. Les problèmes, c'est les problèmes de l'accessibilité à l'école. Quand il y a des embouteillages, vous pouvez être véhiculé, mais vous n'arrivez pas à temps à l'école.
Oui.
Tout simplement parce que le chemin par lequel vous passez pour arriver à l'école, il y a des embouteillages monstres. Donc les parents font le choix du mieux pour leurs enfants. Mais aussi, il faut voir, comme je l'ai dit tantôt, l'implantation de l'école, une école qualitative doit être implantée dans un milieu où il y a facilité d'accès à cette école. Si cette facilité d'accès, d'ailleurs la facilité d'accès ou l'accès à l'école est un élément du plan stratégique de l'éducation pour l'année 2025-2026. Donc il faudrait que l'État voit un peu comment désengorger certaines voies pour permettre à ce que l'accessibilité à l'école soit assez facile.
Mais dans ces cas, l'enfant est constamment fatigué. Mais est-ce que son cerveau apprend-il correctement quand cet enfant est constamment fatigué?
Comme je le disais tantôt, il y a deux types de fatigue. Il y a la fatigue physique. Cette fatigue physique peut se résorber par le sommeil. Donc quand vous prenez suffisamment du temps de repos dans le sommeil, l'enfant peut se ressourcer. Mais quand il arrive la fatigue psychique, vous voyez que ça demande encore d'autres types d'exercices auxquels il faut soumettre l'enfant pour que l'enfant puisse se ressourcer. Voilà.
Mais comment s'y prendre? Comment il s'y prend? Comment il s'y prend? Parce que après il doit réviser les cours, il doit faire ses devoirs, il doit préparer les affaires du lendemain. Un enfant qui a quitté la maison à 5h du matin et qui s'est levé à 4h et qui rentre à la maison à 19h, 20h par là, comment il s'y prend?
Déjà qu'il faut prendre la chose au cas par cas. Tout enfant n'a pas le même rythme scolaire que les autres. Il faut aussi qu'il y ait un accompagnement des parents par rapport à ça. Très souvent, les parents exigent beaucoup des enfants sans pour autant savoir qu'est-ce que les enfants traversent exactement. Quand un enfant arrive à la maison, par exemple, très souvent les parents lui demandent « Tu as obtenu combien dans ce que tu as fait comme exercice ?» Mais les parents ne demandent pas « Comment était ta journée aujourd'hui ?» Alors très souvent, il faut qu'il y ait ces dialogues-là entre parents et enfants pour que certains parents prennent conscience des difficultés auxquelles les enfants sont soumis et du poids que cela entraîne sur leur psychisme et sur leur soma, c'est-à-dire sur leur corps. C'est très important. Mais aussi, il est des enfants qui peuvent se mettre à pied quand ils sont fatigués, tout simplement s'ils prennent le temps de sommeil. Et je le dis tantôt, le temps de sommeil est très très important pour les enfants. Lorsque les enfants ne savent pas se ressourcer, alors ça pèse et vous allez voir que ça va amener les enfants à ce qu'on appelle une procrastination. Et quand les enfants entrent dans la procrastination, et ça va finir par une flemme et puis à la fin, l'enfant risque d'être anxieux et entrer dans la dépression. Donc il faut aussi que les parents prennent le temps d'échanger avec les écoles parce que très souvent, les devoirs, les tâches auxquelles les enfants sont soumis dans les écoles sont, certains enseignants donnent des travaux punitifs aux enfants. Les devoirs doivent être réglementés. Et au courant de la semaine, au courant de la journée, les écoles doivent savoir quel est le nombre de devoirs qui doivent être donnés aux enfants pour que cela ne pèse pas sur leur psychisme. Tenez par exemple, un enseignant qui vient pour le cours d'histoire, il donne un devoir. Un autre pour le cours de mathématiques, il donne un devoir. Vous voyez que déjà l'enfant sera submergé par rapport aux tâches qu'il doit réaliser. Si en plus de cela, il doit être soumis aux contraintes de transport, il doit être soumis aux contraintes de la distance qui le sépare du lieu des apprentissages, ça devient un problème. Donc l'école, les parents doivent prendre contact souvent avec l'école pour aider à ce qu'il y ait une certaine régulation dans les tâches qu'ils doivent donner aux enfants. Et quand les enfants sont aussi à la maison, il faut que les parents prennent beaucoup de temps pour ne pas stresser les enfants. Remettant toujours par rapport aux tâches qu'ils doivent faire. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu devais faire que tu n'as pas fait? Demander souvent aux enfants de faire un vide du cerveau, prendre le temps de se concentrer à autre chose, le temps de détente et le temps de concentration.
Et donc, vous pensez que les écoles doivent aussi s'adapter et prendre en compte toutes les réalités que nous vivons aujourd'hui et dans nos villes, mais également dans nos villages?
Mais naturellement.
Les horaires doivent être réadapté. Il y a des écoles qui commencent très tôt. Et aujourd'hui, avec les embouteillages, c'est pénible pour les enfants. Est-ce que les écoles doivent de plus en plus être flexibles par rapport aux horaires, par rapport aux devoirs?
Naturellement, madame. Naturellement. L'école est faite pour les enfants. Je crois que tout doit tourner autour de l'enfant qui est l'acteur principal dans l'éducation. Si les écoles ne prennent pas en compte cet aspect-là, des distances que parcourent les enfants, de la fatigue que cela entraîne, je crois qu'il n'y aura pas un bon rendement de la part des élèves. Par contre, les écoles intègrent, comme tantôt je vous ai donné l'exemple des devoirs, donc si les écoles laissent que les enseignants donnent des devoirs punitifs aux enfants, donc vous allez vous rendre compte que les enfants seront submergés avec des travaux qu'ils doivent faire et finalement ils seront démotivés, ils ne sauront pas rendre exactement ce qu'on attend d'eux. Donc, il faut que les écoles s'adaptent aussi aux enfants pour permettre à ce que les enfants puissent atteindre une très bonne performance dans les rendements scolaires.
Entre école, devoirs et long trajet ou embouteillage, comment préserver l'équilibre des élèves en RDC? Nous en parlons avec Jean-Claude Dissachi, il est psychologue scolaire. Si vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs, donnez votre contribution, votre avis ou posez une ou plusieurs questions à notre invité. Vous pouvez nous appelez au 085 42 11 547, 085 42 11 547, ou nous laisser un commentaire sur notre page Facebook. Alors, monsieur Dissachi, dans tout ce qu'on a décrit, comment un enfant peut garder un bon équilibre dans toutes ces conditions?
D'abord, une prise de conscience. Il faut que chacun prenne conscience que là, je suis à bout et que là, je ne pourrai pas rendre telle ou telle autre performance par rapport à ce qu'on attend de moi. Déjà, une prise de conscience, c'est le premier pas. Lorsqu'on prend conscience de cette situation, on peut commencer maintenant à savoir comment réglementer son temps par rapport à toutes ces circonstances qui arrivent. Et je l'ai dit tantôt, il faut qu'il y ait aussi un accompagnement des parents.
Des parents, prise de conscience de la part de l'enfant, de l'enfant et de la famille.
Et de la famille aussi. Oui. Et j'aimerais encore ajouter, et aussi de l'école, parce que tout à l'heure nous avons dit qu'il faut que l'école apprenne également à adapter certains programmes par rapport à ces contraintes-là.
Nous avons vu des écoles qui faisaient payer des amendes aux parents qui venaient récupérer leurs enfants en retard. Aujourd'hui, je crois que ces mesures ont été allégées dans ces écoles-là. Pour une heure de retard, il fallait payer jusqu'à 10 000, 11 000 francs pour décourager les parents qui viennent chercher leurs enfants en retard à la sortie. Mais avec tout ce que on vit, par exemple, à Kinshasa, avec ces embouteillages, je crois que les écoles s'y sont quand même adaptées aussi.
Certaines écoles, oui, mais ça continue à exister encore dans d'autres écoles, donc il faut prendre la chose à bras le corps pour que cela soit éradiqué totalement.
Alors, vous vous dites qu'il faut prendre conscience, il faut voir comment réaménager certaines choses. Devant un enfant qui est épuisé et qui doit faire ses devoirs ou qui a sommeil, qu'est-ce qu'on privilégie en tant que parent? Est-ce qu'il faut d'abord que l'enfant dorme et fasse son devoir le lendemain matin, en cours de route, à l'école, ou quelle attitude prendre?
En tout cas, madame, le sommeil, c'est le moment de reconstruction. C'est le sommeil qui permet à ce que les cellules corporelles soient détendues et que l'enfant puisse se ressourcer énergiquement. Donc, quand vous perdez le sommeil, au fait, vous perdez des repères. parce que le sommeil est un besoin physiologique. Et comme le dit Maslow, tout besoin physiologique, lorsqu'il n'est pas satisfait, cela peut même entraîner la mort. Madame, lorsque un enfant ne dort pas, premier signe physique, il a une tête lourde, il ne sait pas tenir sa tête. Et en ce moment-là, sur le plan psychologique, il ne réfléchit plus, il n'a plus le temps de concentration. Mais pour que l'enfant puisse réapprendre tout cela, il faut qu'on amène l'enfant à un certain temps de sommeil. Il faut vraiment qu'on lui consacre ce temps. Et les temps de sommeil sont bien régulés. Et ce temps de sommeil est régulé par rapport à l'âge auquel se trouve l'enfant. Un enfant qui se trouve à l'école primaire, par exemple, je donne un exemple d'un enfant qui se trouverait entre 6 et 8 ans. Son temps de sommeil nage entre 10 et 12 heures du temps. Donc, arrêtez de penser que les 8 heures du temps de sommeil, c'est pour tout le monde. Hein, madame, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, à cet âge-là, le temps de sommeil doit être comme...
Les enfants dorment plus.
Voilà. Donc, voilà pourquoi quand un enfant rentre de l'école, par exemple, et qu'il est à la maison... Souvent, certains parents donnent du temps de sieste aux enfants. Il faut que les enfants se reposent. Quand ils se reposent...
Est-ce que cela est encore possible?
Bon, pour des parents qui le savent...
Oui, mais bon, aux contraintes de nos réalités aujourd'hui, est-ce que c'est possible qu'un enfant rentre et sieste? Déjà que l'enfant arrive à la maison à 19h ou à 20h?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Bon, quand un enfant arrive à 19h, c'est que c'est un enfant qui a une autre vacation, donc il peut avoir deux vacations.
Non, qui est parti le matin, ça arrive.
Un enfant qui part le matin...
On en voit, des élèves en uniforme alors qu'ils sont partis de leur maison très tôt le matin.
C'est ça justement la difficulté. Quand je dis que les écoles doivent s'adapter, quel est le programme de cette école-là par exemple? Quel est le programme d'une école qui prend un enfant de 7h30, parce que l'école commence à 7h30, il termine à quelle heure?
À 13h.
Il termine à 13h.
À 13h, et le chauffeur n'a pas encore atteint l'école à 13h parce que bloqué dans un embouteillage.
Justement.
Et qui arrive à 15h à l'école.
Justement, madame.
Oui.
Donc, je disais tantôt que les écoles, et les parents, les familles donc, et les élèves, tous devons nous adapter par rapport à ces circonstances-là. Je le disais tantôt ici. Mais, je demande souvent aux parents, quand un enfant a déjà pris suffisamment de temps qu'il a passé en dehors de la maison alors qu'il devait être là. Mais quand il arrive par exemple à 19h et qu'il est parti le matin, madame, la première des choses à faire c'est quoi? C'est d'abord de décharger cet enfant-là, de lui donner le temps de prendre bain. Vous savez que le simple fait de prendre bain aussi peut ressourcer cet enfant-là. Et carrément de lui donner le temps de sommeil. Et si cet enfant-là va se reposer, tous les autres devoirs qu'il avait à faire et tout ça, s'il ne les a pas accomplis, c'est la charge du parent de prendre contact avec l'école et de savoir expliquer dans quelles circonstances l'enfant est arrivé à la maison et pourquoi telle tâche ou telle autre tâche n'a pas été accomplie. Voilà pourquoi il faut une collégialité d'intervention, c'est-à-dire de la part des parents, de la part de la société et puis bon, de la part de l'enfant lui-même aussi, pour que nous puissions arriver à remonter cette pente.
Mais est-ce qu'il existe des méthodes simples pour aider un enfant fatigué à réviser quand même?
Pour aider un enfant à réviser de manière simple, la première des choses, il faut voir quand l'enfant arrive à la maison et qu'il est fatigué. Avant de commencer toute révision, je l'ai dit tantôt, donner à l'enfant le temps de se ressourcer. Se ressourcer signifie qu'il prenne le temps de manger, qu'il prenne le temps de prendre bain et qu'il prenne le temps de faire un blackout, donc qu'il prenne le temps de faire un vide dans son cerveau. C'est-à-dire que l'enfant qui quitte l'école et qui rentre à la maison à ces heures-là ne prenne plus trop de temps devant l'écran. Très souvent, les enfants, quand ils rentrent de l'école, la première chose auquel ils s'adonnent, c'est la télévision. C'est le téléphone, c'est tout. Or, ces temps-là qu'ils s'adonnent au téléphone et à la télévision leur prennent suffisamment de temps et cela fatigue encore davantage le cerveau. Donc, il faut un contrôle parental dans ce sens-là et permettre à ce que quand l'enfant arrive à la maison, qu'il prenne d'abord le temps de se ressourcer physiquement et de faire un vide dans son cerveau. Ne pas contraindre automatiquement à l'enfant de faire telle tâche scolaire qui lui a été donnée quand on constate visiblement que le corps ne va pas avec.
Et la famille, vous l'avez dit tantôt, mais quel geste simple aussi faut-il pour pour aider les familles au quotidien afin de mieux gérer ces problèmes, parce qu'il y a au-delà des devoirs, on l'a dit, il faut préparer les affaires du lendemain, des horaires, les cours du lendemain, il faut manger, il faut prévoir la journée de demain. Comment les familles peuvent-elles gérer cette situation?
Un accompagnement est nécessaire, comme je le disais tantôt. Les familles peuvent faire certaines choses pour alléger certaines tâches aux enfants. Par exemple, si l'enfant rentre de la maison et que c'est lui-même qui doit, après être arrivé à la maison, laver ses uniformes, par exemple, ça devient un problème. Quand il est fatigué déjà, donc il va prendre du temps de laver ses uniformes, de manger, vous voyez qu'il aura plusieurs tâches à réaliser au même moment. Donc, quand les parents observent que l'enfant est arrivé à la maison, il faut que les parents prennent, par exemple, le temps de prendre d'autres tâches auxquelles l'enfant devait vaquer. Par exemple, nettoyer ses uniformes. Les parents peuvent le faire, laver les ketchs de l'enfant. Les parents peuvent le faire. Comme ça, ça allège un peu la tâche à l'enfant pour que l'enfant prenne le temps de se ressourcer et finalement de revenir avec beaucoup plus d'énergie pour réaliser les tâches qui lui ont été remises à l'école.
Je rappelle notre numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent participer à cette émission, 085 42 11 547, 085 42 11 547. Nous avons en ligne Thomas Urgen qui nous appelle depuis Kisangani. Bonjour Thomas. Thomas, veuillez activer votre micro et prendre la parole.
Bonjour madame Jocelyne. Et bonjour à l'invité, c'est à tous les auditeurs de la radio au Canada. Merci beaucoup de la thématique d'aujourd'hui. Moi, je pense que la responsabilité, c'est vraiment partager à tous les niveaux là. Et assez que des solutions, parce qu'il y a un précis vidéo, on peut venir que guérir, assez qu'il y ait des pistes de solutions quand assez. Du côté des parents, je crois l'éviter à parler de quelques éléments là que je pourrais ajouter à ce qui est de, faut également, madame, si possible, choisir des écoles qui se trouvent très proches là de la famille ou des enfants. Ça également, ça pourra contribuer également à quelque chose. Vous imaginez avec la fatigue, les surcharges, tout ça. Si l'école se trouve un peu loin également, ça, c'est vraiment très compliqué là. C'est-à-dire, dans le mesure du possible, choisir en tout cas une école qui se trouve un peu à proximité de la maison. Ou s'il y a par exemple des familles d'accueil quelque part là, non loin de l'école, carrément l'enfant peut y habiter là pour aider à faciliter cet aspect des choses également. Il faut également, madame Jocelyne, encourager à mon humble avis une bonne alimentation également. Pourquoi je dis ça, madame Jocelyne? L'alimentation équilibrée aide également les élèves là à mieux résister à cette fatigue-là. Vous imaginez passer beaucoup de temps au cours de la route, plus de 2 heures, 3 heures avec l'embouteillage de Kinshasa là. C'est vraiment également, c'est très compliqué. Et par rapport à ça, une fois l'enfant va regagner la maison, qu'il soit en tout cas bien nourri également quelque part là, ça peut également aider. Ça, c'était par rapport aux parents. Les autres éléments, je crois, l'éviter a bien mentionné. Deuxième rôle, je veux parler également, c'est par rapport aux écoles, madame Jocelyne. Les établissements aussi doivent adapter leurs méthodes, madame Jocelyne. Par exemple, à réorganiser l'horaire, madame. On sait qu'avec l'embouteillage, généralement, le cours commence à 7h30. S'il n'y a pas moyen de déborder quelque part là, d'aller peut-être à 8h, 8h30, quelque part là, pour prévoir également la situation dont certains enfants peuvent traverser. Parce que tout le monde ne peut pas arriver, en tout cas, à 7h30 avec l'embouteillage, tout ça, à Kinshasa, c'est vraiment très compliqué. Là, quelque part, les autorités, les chefs d'établissement, pourront voir également cet aspect des choses également. Et je vais citer par, surtout, les rôles du côté de l'État ou des autorités publiques, c'est parce que c'est vraiment là où j'avais beaucoup ma j'avais beaucoup ma prérogative à taxer. L'État doit s'investir, Madame Justine. S'investir dans quoi? Dans les capacités routières. Parce que tout ce qui se passe avec les embouteillages, les consorts, quelque part là, la planification a échoué quelque part. La planification et l'aménagement du territoire a échoué, a montré ses limites. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État. Construire des routes, entretenir des routes, planifier, parce qu'on doit planifier déjà. Tout ça, ça commence lorsque la planification montre déjà ses limites. On doit bien planifier, parce que lorsqu'il y a la planification, on ne peut pas avoir des embouteillages comme on est en train de voir là. Parce que le diriger également, c'est ce qu'on dit souvent. Lorsqu'on ne planifie pas quelque chose, c'est normal qu'il puisse avoir telle chose là. L'État doit s'investir à cause, dans les infrastructures routières. L'État doit s'investir dans quoi? Dans les transports publics également. L'État doit s'investir également dans ça. Et l'État doit s'investir également, je dis, aussi dans les mesures du possible également, dans la construction des écoles de proximité, Madame Jocelyne. Mm-hmm. Quelque part, là, ça aussi, ça peut aider pour faire face à ces problèmes-là. Directement, je m'en vais à quelques préoccupations que j'aimerais poser à l'invité. La première question, c'est l'invité, je ne sais pas, quels sont les effets de ce long trajet si la performance scolaire des enfants, est-ce qu'il y a la santé physique de ces enfants, est-ce qu'il y a des effets de ce long trajet-là pour les enfants qui concernent par exemple leur santé physique? La deuxième question, l'invité a parlé ici de sommeil. Parce que par rapport au rôle de l'État, aux parents, pardon. Et comment le manque de sommeil, là, influence-t-il la performance également scolaire de l'enfant? Comment est-ce que ça peut influencer? Ça, c'est la deuxième question que j'aimerais poser à l'invité. La troisième question.
Allez-y, Thomas Ouren.
Allô, vous me suivez?
Oui, allez-y.
Allô, merci beaucoup. Je vais citer par ceci. Comment préserver l'équilibre entre l'étude, les repos et les vies familiales chez les enfants? Ça, je ne sais pas comment est-ce que l'invité peut nous aider quand c'est comment on peut préserver. D'une part, on a les études, on a les repos, la vie familiale chez les enfants, avec tout ce qui se passe, à ce qui est des embouteillages là, avec les problèmes des routes, tout ce qui se passe là, qu'est-ce que l'invité pourra nous proposer qu'à tracer. Je vais citer, si vous voulez, par ceci, madame.
Il y a d'autres personnes qui attendent après vous, Thomas Rougen. Hein. Vous avez posé trois questions. Je crois que c'est assez suffisant. On va prendre aussi...
Merci beaucoup, madame.
Merci à vous, Thomas Rougen. On va prendre d'autres auditeurs en ligne. Platini Mbombo nous appelle depuis Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, madame Jocelyne.
On vous écoute, Platini Mbombo.
Voilà. Merci beaucoup, madame, pour avoir sorti de ce débat.
Oui.
Je n'ai pas bien capté la thématique. Je ne sais pas si vous pouvez nous répéter rapidement.
On parle des effets, en tout cas, hein, des effets de longs trajets ou des embouteillages sur la performance des élèves entre école, devoirs et long trajet ou embouteillage. Comment préserver l'équilibre des élèves en RDC?
Voilà, merci beaucoup madame, c'était un très bon sujet. Et aussi, comme je peux vous dire que la responsabilité est partagée, ce n'est pas aussi la question de parents, et aussi c'est le problème de l'école. Parce que moi maintenant, comme je peux vous dire, un témoignage, parce que je suis dans la ville de Mbandaka, où maintenant, je salis quand même les enfants, les hommes en uniforme, donc les policiers, ce qu'on appelle le PCR, parce que la ville de Mbandaka n'a pas beaucoup... d'embouteillage comme à Kinshasa, bien sûr, mais au moment de 7h ou 12h, vous allez constater que si les élèves quittent la maison, allaient à l'école, vous allez voir qu'il y a quelques embouteillages au cours de la route. Mais souvent, la police fait quand même l'effort de barricader la route, donner le passage au niveau des élèves passer, entrer dans leur école. Ça, pour moi, c'est la responsabilité est partagée. Et deuxième partage encore, c'est nous, les parents. Parce que souvent, quand on apprend que l'enfant étudie dans telle et telle école, il faudrait faire l'effort, soit vous-même, d'accepter d'aller le récupérer vous-même au niveau de l'école, d'attendre 12 heures, le récupérer votre enfant et revenir avec lui ensemble à la maison pour la sécuriser. Alors moi, je vais poser la question au niveau de l'invité. Mm-hmm. Il y a d'autres écoles au Congo, ici dans la ville de Mbandaka où moi-même j'ai vécu. À l'école, les enfants sortent à 12h30. Et les écoles privées, officielles, etc., tout ça, si on sort... ouvre les portes ouvertement, les élèves sortent en débarras comme ça. Et après 12 heures, il y a aussi les élèves de première, deuxième, troisième qui ne connaissent pas le chemin de la maison. Ils connaissent pas Zéla, comme on dit à Lingala. Mm-hmm. Commencent maintenant à se traîner, pleurer, au lieu de récupérer ces enfants, ces élèves gardés au niveau de l'école jusqu'à ce qu'on attend le propriétaire, soit le parent, vienne pour récupérer. Ça, c'est pour... Alors, si l'invité peut nous expliquer un peu. Aujourd'hui, dans une école quelconque, je ne vais pas citer les noms, on sonne l'école à 12h30, et à dépasser 12h30 que le parent n'arrive pas à venir récupérer l'enfant, est-ce que le directeur, ou soit le chef de l'école, peut laisser les élèves partir comme ça, aussi longtemps que les élèves sont encore trop minés, trop petits? Si aujourd'hui que vous allez constater que vous ne trouvez pas votre enfant, maintenant vous allez revenir à qui? À l'école? Au directeur? À qui? Voilà un peu ce que je voudrais voir l'éclaircissement autour de ça. Parce que souvent, nos directeurs des écoles font semblant de connaître ça.
Merci, Platini Mbombo, pour votre question depuis la ville de Mbandaka. On va terminer avec Fred Chibouaboua, qui nous appelle de Kananga, dans le Kasaï central. Bonjour Fred.
Bonjour, bonjour madame, bonjour à l'invité, bonjour aussi aux auditeurs qui me suivent à l'instant même. Je vous remercie vraiment de m'avoir contacté, surtout pour débattre concernant ce sujet qui est tellement pertinent. Moi, je voulais aborder de cette façon ici. Personnellement, je suis psychologue scolaire de formation.
Oui. Comme M. Jean-Claude
Sachi
qui est avec nous.
Oui. Oui. Lorsqu'on nous enseignait, on nous avait dit qu'il faut équilibrer la distance. Donc, le législateur en soi a déjà déterminé quelques kilométrages, soit quelques mètres par rapport à l'implantation d'une école. Mais actuellement, nous remarquons que les écoles sont implantées en désordre. Vous trouverez dans moins de, si c'est 30 mètres ou soit 1 kilomètre, vous pouvez trouver 2 ou 4 écoles. Et qu'est-ce qui fait encore mal? Dans ces écoles-là, on trouve les mêmes options. Ici, il y a la pédagogie générale, il y a biologie, coupe et couture. Vous marchez à une distance de 10 mètres ou soit de 30 mètres. Il y a une autre école à côté avec les mêmes options. C'est toujours comme ça partout sur la ville de Kananga, même dans notre pays. Alors, avec tout ce qui se passe là, l'État est où vraiment pour recadrer les gens, surtout les promoteurs, les écoles privées, ceux qui implantent vraiment les écoles de cette façon-là. Maintenant, par rapport aux distances aussi, la distance, surtout à Kinshasa, où vous parlez des embouteillages, qu'on sort, mais dans des villages reculés, ça pose vraiment des problèmes. Il y a aussi des endroits qu'on n'a pas implanté les écoles. Les enfants, les écoles primaires, tout comme les humanités, sont obligés d'effectuer de longues distances, des fois passer même dans des forêts et traverser même des rivières pour arriver là où il y a l'école pour étudier.
Tout à fait.
Et chaque fois, nous avons vraiment de tels risques. Suite à cela, moi je trouve que l'État, ou soit le ministère des tutelles en soi, pouvait vraiment vérifier ou soit supprimer quelques options dont les écoles ont organisé mais qui sont à proximité. Et cela pouvait quand même aider. Aussi voir aussi d'autres milieux là où il n'y a pas des écoles et implanter les écoles de façon à ce que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Mmh. Et aussi, je suis en train de me demander pourquoi vraiment on nous enseigne les histoires, mais sur le plan pratique, nous vivons vraiment d'autres choses. Mmh. Hein? C'est ce que moi, je ne comprends pas. Moi-même, j'ai été vraiment victime. Je reste à Kanangadé et j'étais obligé d'étudier à l'IPECAN. Imaginez que c'était déjà dans l'enseignement supérieur et universitaire. Mmh. Je quitte Kanangadé, des fois, si je fais les transports, je quitte très tôt matin, à 6 heures, pour arriver là-bas à 8 heures. À 8 heures, je trouve des fois l'enseignant dans la salle. Je commence à étudier. On nous laisse à 18 heures. À 18 heures, lorsqu'on quitte là-bas, pour arriver à la maison, il faut arriver encore même à 19 heures ou soit 20 heures. Et là, on vous a donné les TP. Vous êtes obligés de travailler les TP là, de chercher comment imprimer et de déposer encore demain matin à 8 heures. Mmh. Imaginez, madame, ça ne m'avait pas permis à ce que je puisse vraiment finir très bien à l'époque parce que les conditions ne me permettaient pas. Mais si à l'université, les gens souffrent vraiment de telle façon-là, mais à combien plus forte raison au niveau de l'école primaire, aussi aux humanités. C'est un peu ça vraiment mon avis. Et je voulais aussi savoir, l'invité intervient étant psychologue ou soit un membre du gouvernement.
Il intervient en tant que psychologue scolaire. Il est psychologue scolaire.
Voilà. Prochainement, je peux vous suggérer d'inviter aussi un membre du gouvernement pour qu'il puisse vraiment nous dire quelles sont les mesures qu'ils ont prises pour protéger un peu les enfants, surtout avec les écoles à proximité qui ont les mêmes options.
D'accord.
Puisque vous trouverez dans une école, il y a par exemple, en troisième pédagogie générale, il y a 10 élèves. Mmh. Et l'autre côté aussi, l'autre école qui a proximité, il y a 5. Tout ça. Bon. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire et de former normalement? C'est un peu ça vraiment, madame.
Merci Fred Chibwaba depuis Kananga au Kasaï Central. Nous allons terminer avec ce commentaire de Elias Mahano qui nous écrit sur Facebook depuis Bukavu, et dit ceci: je pense que les apprenants sont tout simplement des victimes car ils sont vraiment innocents. En ce qui concerne les enseignants, c'est de leur responsabilité de donner des devoirs à domicile, et par là c'est normal, au contraire ils devraient donner plus de devoirs les week-ends. Par ailleurs, le problème d'embouteillage à Kinshasa incombe de la responsabilité du gouvernement, car ni les apprenants ni leurs parents ne peuvent rétablir la bonne circulation routière, ni réhabiliter les routes secondaires. Enfin, le gouvernement, on va y aller, le gouvernement devrait réhabiliter beaucoup de routes et surtout les routes secondaires, mais aussi renforcer la discipline routière et chercher des investisseurs pouvant ramener des bus à Kinshasa pour limiter voilà, le nombre élevé des voitures sur les routes. Merci Elias Mahano depuis Bukavu. Alors, monsieur Jean-Claude Issachi, on va répondre aux questions des auditeurs. Thomas Ourguen, qui nous a appelé de Kisangani, qui dit qu'il faut choisir les écoles à proximité. Cet avis est partagé par Jurès Emaka et Jean-Claude Kimbungu, qui nous ont écrit sur Facebook. Thomas Ourguen, qui dit également qu'il faut encourager une bonne alimentation pour les enfants et les écoles doivent adapter leurs méthodes. Il demande les effets de ce long trajet sur la performance et il dit comment l'enfant va préserver son équilibre dans toutes ces conditions. Platini Mbombo pose le problème des élèves, des écoles qui libèrent les enfants alors que les parents n'y sont pas là, les tout jeunes, les tout petits qui connaissent pas le chemin pour retourner à la maison. Et puis Fred Chibwaba de Kananga qui suggère que les écoles qui organisent les mêmes filières soient fusionnées.
Merci beaucoup madame pour la parole. Je crois que je vais commencer par monsieur Thomas Ourguen de Kisangani. Mm-hmm. Il est revenu sur beaucoup de choses que j'avais dites ici. Nous nous sommes rencontrés par rapport aux avis que nous avons émis.
Mmh.
Alors, il a posé la question de savoir quels sont les effets de ces longs trajets sur la santé physique des élèves. Je crois que si M. Thomas Orguen et depuis Kisangani nous a bien suivi, nous avons dit que le premier effet direct de ces longs trajets, c'est la fatigue.
Mmh.
Et cette fatigue-là peut être aussi bien physique que psychique. Et lorsque cette fatigue s'installe dans la durée, cela peut conduire même les enfants jusqu'à la dépression.
Mmh.
Donc il faut que les parents prennent, fassent bien attention par rapport à ces trajets que les enfants parcourent pour justement voir comment restaurer ces enfants-là. Nous l'avons dit ici que l'alimentation était très très importante, le sommeil était très très important pour ressourcer ces enfants qui font ces longs trajets-là. Alors sa deuxième question c'était de savoir comment le sommeil peut influencer la performance scolaire. Je l'ai dit tantôt, le sommeil est un besoin physiologique, c'est un besoin primaire, c'est comme la faim, c'est comme la soif, et lorsque ce besoin n'est pas rempli, cela peut entraîner la mort. Ce sont des besoins physiologiques. Nous sommes dans la pyramide de Maslow, voilà pourquoi j'insiste pour que les enfants prennent beaucoup de temps de sommeil. Je l'ai dit tantôt ici que le temps de sommeil correspond à certains âges et qu'à tel ou tel autre âge correspond à un certain temps de sommeil et que ce temps de sommeil doit être respecté. Certains qui voudront avoir beaucoup plus d'informations là-dessus pourront nous contacter même après l'émission. Nous pourrons voir car cela peut être abordé au cas par cas. Alors, il a également posé la question de savoir comment préserver l'équilibre entre études, repos, vie familiale. Je crois que l'action éducative n'est pas une action qui se fait de manière singulière. C'est une action qui se fait de manière collective. Il faut qu'il y ait la contribution de tous, la contribution à la fois des parents, la contribution de l'école, la contribution de l'enfant lui-même. Et ici, beaucoup l'ont signifié parmi nos auditeurs, la contribution de l'État. Donc il faut que tous nous puissions mettre la main dans la pâte pour que nous puissions arriver à relever ces enfants qui tombent dans la fatigue, parce que nous le disons, lorsque la fatigue entraîne la dépression, ça devient un problème sérieux pour les enfants. Donc il faut qu'il y ait cette collégialité d'intervention pour permettre à ce que les études ne soient pas un fardeau pour les enfants. J'ai dit tantôt, il y a un auditeur qui est intervenu sur Facebook, c'est monsieur Elias Mahano, qui a dit que c'est de la responsabilité des écoles de donner le devoir. Je suis bien d'accord avec M. Mahano. Les écoles doivent donner des devoirs parce que les devoirs sont des tâches qui sont là pour parfaire l'enseignement, pour que l'enfant continue à mieux faire ce qu'il a appris à l'école, à la maison. Mais j'ai dit ici que ça devient un fardeau lorsque les devoirs sont donnés de manière punitive aux enfants. Il y a des enseignants, ils n'ont rien prévu comme leçon. Il arrive en classe, il parle peu, paf, il donne un devoir aux enfants.
Surtout quand les enfants font
Et quand les enfants font beaucoup de bruit pour punir les enfants, il punit les enfants par un devoir.
Ouais.
Madame, allez-y comprendre quelque chose. Si ces enfants-là doivent faire du bruit tout au long de la journée, ça signifie que s'ils ont 6 heures, ils auront 6 devoirs à faire et à remettre demain matin. Voyez-vous que ça pèse sur les enfants. Donc c'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il faut la participation même de l'école. Il faut savoir réguler ses devoirs. Les devoirs ne peuvent pas donner à temps et à, être donnés à temps et à contre-temps. On donne les devoirs au terme d'un enseignement par rapport peut-être quand on veut passer d'un chapitre à un autre, il faut que cela soit régulé aussi. Il faut qu'il y ait un tableau de devoirs où les enseignants qui interviennent dans cette classe-là s'entendent entre eux pour savoir que tel va donner telle quantité de devoirs, tel autre va donner telle quantité de devoirs, ou alterner ça par rapport au jour. Un autre peut donner les devoirs le lundi, nous faisons passer le mardi, un autre peut intervenir le mercredi. Comme ça, ça crée de l'équilibre. À ce moment-là, les études ne vont pas peser sur les apprentissages des enfants. Mmh. Ça ne deviendra pas un fardeau. Et puis les temps de repos à la maison. J'ai toujours dit aux parents de ne pas surcharger les enfants par rapport aux travaux ménagers.
Mmh.
Et les travaux ménagers...
Mais ils ont aussi besoin d'apprendre.
Je suis d'accord avec vous, madame, que les enfants doivent également apprendre. Mais à quel moment faut-il apprendre? Il y a des moments fatidiques, il y a des moments importants d'apprentissage. Ce n'est pas que quand l'enfant revient de l'école, vous lui demandez de commencer à préparer. Déjà qu'il a faim lui-même. Vous lui demandez de commencer à préparer pendant qu'il a faim et qu'il doit faire un devoir. Vous voyez que même si vous devez lui inculquer...
Les cantines scolaires devaient aussi exister. Hein?
Voilà pourquoi nous rejoignons la responsabilité du gouvernement. Je remercie mon collègue Fred Tchibouaboua qui est intervenu depuis Kananga. Fred l'a si bien dit parce que c'est un psychologue scolaire de chez quoi de formation. Il a dit qu'il fallait peut-être... pour des séances futures, inviter également un membre du gouvernement.
Tout à fait.
Je l'ai dit d'entrée ici. L'implantation d'une école, on implante une école sur base de quels critères? Voilà, la démographie, est-ce qu'on en tient compte? L'explosion démographique, le nombre d'habitants dans un coin ou dans un autre coin. Il y a aussi les besoins de la cartographie scolaire. Par exemple, ce qu'il disait tantôt ici, nous avons dans un même quartier, une multitude d'écoles qui ne nous présentent que les mêmes options. C'est un problème réel. Alors en ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Donc il faut qu'il y ait une régulation et une intervention à la fois du gouvernement aussi. Il y a un autre auditeur qui a parlé depuis Mbandaka. Il a félicité les agents routiers, la police de circulation routière au niveau de Mbandaka. C'est encore possible que cela se fasse à Mbandaka. Mais ici, à Kinshasa, et vous voyez la corruption qu'il y a tout autour des agents de la police de circulation routière. La réglementation routière pose un problème. Les états des routes également. Ça, ce n'est pas de la responsabilité des parents. Je l'ai dit tantôt ici que le choix des écoles est important. Oui, la distance peut ne pas poser problème s'il y a cette régulation sur les plans de route, s'il y a des infrastructures à même... De permettre un accès facile au lieu des apprentissages. Donc, il faut qu'il y ait cette intervention-là, à la fois de l'État, de la famille, de tout, pour que nous puissions arriver à un bon résultat. Il y a M. Platini Mbombo de Mbandaka qui a posé la question de savoir qu'est-ce que nous faisons si les parents ne vont pas récupérer les enfants à l'école. Quand... Je crois que les problèmes posé par M. Platini n'est pas un problème de distance.
C'est pas un problème. C'est un problème d'organisation.
C'est un problème d'organisation. Si, au départ, il avait dit qu'il n'avait pas bien suivi la thématique, j'ai compris.
Et dans ces cas, on va prendre d'autres intervenants. Lui, Bilengan Gandou, chercheur indépendant en transport multimodal et logisticien depuis Kinshasa, voudrait bien intervenir dans cette émission. Et puis après lui, on va écouter Rovince Matidi, qui est président de chef d'établissement du primaire depuis Bandunduville. Nous sommes avec lui, Bilenga Gandou. Bonjour.
Bonjour à tout à coup.
Bonjour, on vous écoute pour votre intervention.
Oui, merci beaucoup pour la pertinence de la thématique évoquée. En tant que passionné du secteur de transport et chercheur, j'aimerais tout d'abord mettre un accent sur les difficultés liées à la mobilité. Des élèves surtout. Il y a un problème très sérieux, un enjeu majeur dans la mobilité des élèves, dans la ville de Kinshasa plus particulièrement, puisque c'est là où on est résident. Et ces problèmes sont des problèmes d'ordre organisationnel. Il y a les problèmes aussi de l'amélioration des infrastructures routières. Il y a aussi le problème de réguler la circulation aux aires scolaires. Et en plus, promouvoir aussi les mobilités alternatives. Au préalable, on doit penser à créer des bus scolaires publics ou privés dédiés aux élèves. Ça veut dire que les écoles doivent s'organiser en partenariat avec l'État pour autonomiser les élèves en raison de leur permettre une mobilité assurée. Il faut qu'il y ait la subvention des coûts pour les familles à faible revenu. On doit définir des itinéraires fixes desservant les quartiers densément peuplés pour résoudre ce problème de mobilité. L'État doit réhabiliter de manière permanente les routes secondaires, surtout parce qu'on constate aux heures de pointe, généralement le matin et vers le soir, à midi aussi, lorsqu'il s'agit de la mobilité scolaire, les conditions s'observent de part et d'autre. Ça cause vraiment préjudice aux élèves. Ça cause des retards, y compris aussi le personnel enseignant. Se retrouve dans des situations après l'enseigne qu'ils arrivent en retard à l'école et ça contrarie le bon fonctionnement du système scolaire.
Lubilenga, merci. On doit devoir vous arrêter pour donner aussi la parole à Rovinsa Matiti qui nous appelle depuis Bandundouville. Ah, qu'il active son micro, Rovinsa Matiti. Veuillez activer votre micro et prendre la parole parce qu'il nous reste trop peu de temps. Malheureusement, on l'écoute pas alors que on a repris la parole à Louis Bilenga qui écrivait. On va aussi en profiter pour remercier ceux qui nous ont écrit via Facebook. Moucha Galoucha Bissi, moi, nous écrit depuis Bukavu. Il dit certains écoliers se réveillent à 5 heures pour ne pas rater le bus scolaire qui passe à 6 heures. Et c'est là pour rentrer à la maison à 15 heures ou après cette pratique. Et puis, des enfants qui n'ont pas assez d'énergie au niveau du secondaire, les écoles brillent avec des heures supplémentaires et des jours de rattrapage. De là, on se demande si les heures prévues ne suffisent plus pour finir un programme prévu par le ministère sans faire recours aux heures supplémentaires et des jours de rattrapage. Merci à Jonas Mukendi qui nous a également écrit via notre page Facebook. Martin Moutela, merci. Et Monsieur Disachi, on va finir par là, répondre, à réagir hein, à l'intervention de Louis Bilenga Ngandou.
Monsieur Louis Bilenga Ngandou a parlé comme un expert en mobilité dans la ville. Hein, donc, il a donné des pistes et des solutions. Je crois que les autorités étatiques l'ont entendu. Et je crois que ça peut aider à résoudre ou à résorber certains problèmes liés à la mobilité des élèves par rapport à l'accessibilité aux écoles. Je l'ai dit, les bus peuvent exister. Oui, c'est un atout. Mais s'il y a des embouteillages, c'est un autre problème. Donc, il faudra que ces problèmes-là soient également intégrés pour qu'on arrive à donner la solution.
Et le problème des heures supplémentaires soulevées par Moucha Galoucha, Bissimoi.
Les heures supplémentaires, s'il y a une mobilité facile, ces heures supplémentaires ne poseront pas de problème. Mais s'il n'y a pas de mobilité facile, ces heures supplémentaires pèseront sur les apprentissages des enfants.
Monsieur Jean-Claude de Disachi, merci d'avoir répondu à notre invitation
et à nos questions.
Merci pour votre disponibilité.
Merci.
Et à très bientôt.